Le journal Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir, un coup à jouer pour Neuchâtel Xamax. La Swiss Football League a décidé d'augmenter de 10 à 12 le nombre d'équipes de Super League dès la saison 2023-2024. Conséquence, l'année prochaine, les deux premières formations de Challenge League seront automatiquement promues. Il prétendait s'être fait scarifier une croix gammée sur la joue. Un homme a vu sa plainte classée par le ministère public neuchâtelois qui a acquis la preuve que le scénario avait été inventé. Un genre d'affaire qui reste rare. Un cadeau géant pour la Chaux-de-Fonds, la métropole horlogère sera chargée d'installer sur la place de la gare une horloge monumentale offerte par l'entreprise Tissot. Et quelques orages pourraient éclater sur la région ce soir. Demain, soleil et grosse chaleur seront à nouveau au rendez-vous. Neuchâtel Xamax face au changement. Réunie en assemblée générale extraordinaire aujourd'hui, la Swiss Football League a largement choisi de porter de 10 à 12 le nombre d'équipes en Super League dès la saison 2023-2024. Le championnat se déroulera en trois phases distinctes et sera conclu par des play-offs. L'année prochaine sera une saison de transition. Pas de relégation directe en Super League, mais le dernier de classe jouera un barrage face au troisième de Challenge League. Jusqu'à trois formations de seconde division pourrait ainsi retrouver l'élite, une possibilité alléchante pour Neuchâtel Xamax. Son président Jean-François Collet tempère.
C'est une aubaine possibilité, disons, pour tous les clubs qui vont participer au championnat l'année prochaine. Donc nous, on ne va pas changer nos plans, on a un projet, on a un budget, on va s'y tenir. Et puis si on a la possibilité de jouer vers le haut, on va le faire. Mais on ne va pas se mettre une pression particulière pour cette année-là, parce qu'il y aura d'autres possibilités dans le futur de monter.
Ce changement, il aurait pu être mis, par exemple, à la Challenge League aussi, en deuxième division.
Alors, ça sera une discussion après de voir si la formule qui sera retenue pour la Challenge League. Après, le problème d'une formule à 12, c'est que ce n'est pas une formule super attrayante. Comme on l'a vu, c'est un championnat avec une formule qui est relativement compliquée. Et je ne suis pas persuadé que ce soit forcément nécessaire qu'on augmente la taille de la Challenge League. Mais ça, c'est une discussion qu'on aura ultérieurement.
Est-ce que ces changements vont augmenter l'attractivité, mais aussi peut-être la compétitivité du football suisse sur le long terme?
Je ne peux pas le garantir. Je pense que ça va permettre à plus de clubs d'évoluer de manière un peu plus sereine.
Et si le football helvétique prépare son avenir, Neuchâtel Xamax n'est pas en reste. Le Galamax, repas de soutien destiné aux espoirs rouge et noir, s'est tenu aujourd'hui au patinoire du littoral, avec pour invité d'honneur Christian Carambeu. Pour l'ancien footballeur international français, la Suisse a encore du chemin à faire pour améliorer le suivi de ses jeunes talents.
On sait qu'il y a un savoir-faire ici en Suisse. Quand je disais qu'on était un peu en retard, c'est plus dans la structuration des choses et des moyens. Par rapport aux droits télé ou par rapport au sponsoring du championnat suisse, c'est assez pauvre, entre guillemets. Donc, il y a un effet contraire à l'image suisse qui, normalement, est porteur au niveau international. Et c'est pourquoi, oui, il ne faut pas s'approprier des jeunes, mais surtout les aider à voler de leurs propres ailes et créer justement ce lien entre l'académie et le groupe pro, parce que c'est l'espoir. Sans l'académie, et vice-versa, les deux ne peuvent pas survivre. Donc c'est du gagnant-gagnant, sachant que la ligne directrice est bien évidemment développer un gamin pour jouer en pro.
Et un dossier réalisé par Guillaume Joly. Le comité d'organisation du Galamax espère retirer un bénéfice de 250 000 francs au terme de cette journée, un montant destiné à soutenir majoritairement la Xamax Academy. On revient sur le reste de l'actualité sportive à la fin de ce journal dans le Point Sport. Une affaire d'agression raciste qui se révèle fausse. Le ministère public neuchâtelois a classé la procédure concernant un homme qui affirmait s'être fait scarifier une croix gammée sur la joue. Il avait prétendu avoir été attaqué par une bande de jeunes parlant une langue germanique lors d'une nuit de janvier dans un jardin public à Neuchâtel. Pour le ministère public, l'homme n'est ni entré ni sorti de chez lui aux heures de la prétendue agression et une photo de la scarification sur sa joue a été retrouvée à une heure qui ne coïncidait pas avec son récit. Ce genre de fausses plaintes n'arrive pas souvent dans le canton, selon le procureur général Pierre Aubert.
Globalement, c'est plutôt rare que les gens déposent des plaintes pour des faits qui ne se sont pas produits, surtout quand ce n'est pas pour nuire à quelqu'un. Donc là, ce serait seulement pour se mettre en valeur. Probablement que l'idée de l'intéressé n'était pas de déposer une plainte. Je pense qu'il ne l'a fait que parce que son récit sur les réseaux sociaux a alerté l'opinion et que c'est la presse qui a pris contact avec la police, puis la police avec l'intéressé, mais rien n'indique qu'il aurait fait cette démarche lui-même. Il a probablement dû se sentir acculé dans son récit et il est allé jusqu'au bout de sa fantaisie.
Le ministère public neuchâtelois a du coup ouvert une procédure contre l'individu pour induction de la justice en erreur. Un soutien bienvenu pour les stands de la fête des vendanges. Les associations pourront compter cette année sur un don de 400 francs pour alléger leurs frais. Un don qui devrait couvrir une partie des coûts induits par l'introduction des gobelets réutilisables et du système de paiement cashless sans argent. Ce soutien a été rendu possible grâce à la générosité anonyme de l'un des sponsors de la manifestation. Un garde-temps géant sur la place de la gare de La Chaux-de-Fonds. L'entreprise Tissot a fait cadeau à la métropole horlogère d'une horloge monumentale qui devrait être installée à l'automne. L'idée est née en 2018 d'une remarque du conseiller fédéral Ignazio Cassi qui, en visite à La Chaux-de-Fonds, s'était étonné de trouver peu d'horloges dans l'espace public. Face à ce constat, François Thiébault, alors directeur général de l'entreprise Tissot, avait lancé un concours au sein de l'école d'art. Les autorités chaux-de-fonnières ont aujourd'hui la tâche d'installer l'œuvre retenue, de la mettre en valeur et de l'entretenir. Le conseiller communal en charge de l'urbanisme, Théo Huguenin-Elie.
Les travaux de génie civil, d'électrification, d'éclairage correspondent à un investissement de 90 000 francs. Mais encore une fois, mes collègues et moi-même consentons avec beaucoup de bonheur à cet investissement.
Comme la ville de La Chaux-de-Fonds, on est dans une situation financière un petit peu délicate. Est-ce qu'on peut parler de cadeaux empoisonnés ?
Oh non, il n'y a pas de cadeaux empoisonnés. Au contraire, c'est une plus-value pour la ville qui est extraordinaire. Naturellement, la ville de La Chaux-de-Fonds doit aussi consentir à faire l'effort nécessaire pour l'installation de l'horloge, mais c'est bien normal. Donc c'est veut dire que les travaux de génie civil et d'éclairage seront à la charge de la ville, mais c'est bien normal.
Propos recueillis par Claire Viget, l'installation de cette horloge monumentale fait l'objet d'une enquête publique qui court jusqu'au 13 juin. L'espéranto serait une langue qui convient particulièrement bien au chant. Chacun pourra se forger sa propre opinion à l'occasion des petites Schubertiades des Brenets. Cet événement musical a lieu demain et dimanche dans le village des Bords du Doubs. Il est co-organisé par Mireille Grosjean, la présidente de la Société suisse d'espéranto.
Je pense que l'espéranto se prête très bien au chant parce qu'il y a des accents toujours sur l'avant-dernière syllabe des mots. Et quand j'entends des parties chantées, l'espéranto convient totalement et je préfère nettement entendre chanter en italien ou en allemand plutôt qu'en français. Parce qu'en français, la mélodie de la langue, l'intonation est assez plate. Tandis qu'en allemand, en italien, en espéranto, vous avez des accents sur les mots et ça donne une langue qui en elle-même est beaucoup plus chantante.
Cet événement réunit sur deux jours des musiciens, des chanteurs espérantistes ou non, de tout le pays, de français d'ailleurs. On y entendra même des chants en occitan. Détail sur rtn.ch. Il a fait très chaud aujourd'hui en Suisse. Delémont, par exemple, enregistre un record absolu pour un mois de mai avec 31,8 degrés enregistrés. À Coire, le thermomètre est même grimpé jusqu'à 33,6 degrés. 50 500 réfugiés se sont annoncés en Suisse depuis le début de la guerre en Ukraine il y a près de 3 mois. Aujourd'hui, presque tous sont au bénéfice du statut de protection S. La Confédération et les cantons ont tiré un premier bilan de cet accueil qui représente le triple des demandes habituelles d'asile en une année. La ministre de Justice et Police, Karine Keller-Souter, estime que la situation est sous contrôle et que la Suisse est prête à recevoir encore d'autres réfugiés.
Si nous avons pu accueillir en Suisse si rapidement un si grand nombre de personnes, c'est parce que nous avons très vite mis en place le statut de protection S. La situation était donc entièrement nouvelle pour le SEM, mais aussi pour les cantons. Vous vous souvenez sûrement de longues files d'attente les premiers jours devant les centres fédéraux. Avec de nouveaux outils en ligne, le processus d'enregistrement a pu être accéléré et les files d'attente ont rapidement disparu. Concernant l'hébergement, je peux dire que la situation est sous contrôle. Bien entendu, les choses peuvent à nouveau changer très rapidement en fonction de l'évolution de la guerre. Nous utilisons le temps dont nous disposons maintenant pour nous préparer à cette éventualité.
Et le coût de l'accueil des réfugiés ukrainiens est évalué entre 1 et 2 milliards de francs pour cette année pour la Confédération. Les cantons ont aussi dû relever le défi de l'hébergement et de la prise en charge des réfugiés. 12 000 enfants ont notamment dû être scolarisés. La présidente de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires socialistes, la jurassienne Nathalie Bartoulot.
Tout d'un coup, nous nous sommes retrouvés les cantons avec l'arrivée de nombreuses personnes dans un flux qu'on n'avait jamais connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il s'agissait de trouver à la fois un hébergement pour ces personnes, mais après aussi de travailler à leur intégration, d'ouvrir des classes, de faire des consultations médicales. Donc, tout d'un coup, il y a eu comme ça un engagement très fort du côté des cantons par rapport à l'arrivée de ces personnes ukrainiennes. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça a coincé ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette appréciation parce que je pense que les cantons ont fait ce qu'ils ont pu. Tous les cantons se sont engagés solidairement dans l'accueil de ces personnes. Et puis aujourd'hui, force est de constater que même si quelques petits points n'ont pas fonctionné à satisfaction d'entrée de jeu, je pense qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une situation relativement équilibrée qui est satisfait l'ensemble des cantons.
Un dossier à Berne de Serge Jubin et soutien renforcé à l'Ukraine, justement. Les pays du G7 réunis en Allemagne se sont accordés pour réunir environ 19 milliards de francs destinés à soutenir les finances ukrainiennes face à l'invasion russe. Cette aide s'étalera sur l'année 2022. Sur le terrain, le commandant ukrainien encore retranché avec des soldats dans l'usine d'Azovstal à Mariupol a reçu l'ordre de déposer les armes pour sauver des vies, tandis que Moscou accentue la pression sur le Donbass. En France, plusieurs poids lourds de l'ancien gouvernement restent en place à l'issue du remaniement présenté aujourd'hui. Bruno Le Maire conserve l'économie et les finances, Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur et Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Du côté des arrivées, Catherine Colonna reprend les affaires étrangères. Éric Blanquer est remplacé par l'historien Pape Ndiaye à l'éducation nationale et Roselyne Bachelot cède la culture à Rima Abdul-Malak.
Il est 18h11.
Sport. En tennis, Casper Ruud est en finale. Le Norvégien a pris le meilleur sur l'Américain Riley Opelka cet après-midi en demi-finale du Geneva Open. Le tenant du titre s'est imposé en deux manches 7-6, 7-5. Il sera opposé en finale au Portugais Joao Souza qui s'est défait du Français Richard Gasquet. En cyclisme, coup de théâtre sur le Giro, Romain Bardet a abandonné ce Tour d'Italie aujourd'hui lors de la 13e étape. Quatrième du classement général à seulement 14 secondes du maillot rose de leader, le cycliste français malade a dû jeter l'éponge. L'étape du jour est revenue à un autre Français, Arnaud Démare, qui fait ainsi son troisième succès sur ce Giro. Et c'est J-1 avant le choc au sommet pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace. Les Helvètes affrontent le Canada demain dès 15h20 à Helsinki. Invaincus après 4 matchs, les deux formations vont se disputer la tête du groupe A du championnat du monde en Finlande. La Suisse va pouvoir compter sur ses joueurs de NHL dont fait partie Janis Moser. À 21 ans, le défenseur zélandais formé au HC Vienne a fait le grand saut en Amérique du Nord cette saison. Il a disputé 43 matchs avec les Coyotes d'Arizona. Un monde à part que découvre Janis Moser.
C'est clair qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est très intéressant. Tu vas en Amérique du Nord et puis tu as tous les trucs qui se passent totalement différents, mais c'est très intéressant d'essayer d'adapter à ça.
Votre entraîneur, qu'est-ce qu'il vous demande ? Quel est votre rôle particulier avec cette équipe d'Arizona ?
Mon rôle, c'est pas de faire les grandes charges. Après, c'est juste jouer solide défensivement, être dans le propre spot. Et puis, ouais, juste un peu plus jouer avec le puck, tourner le jeu vite, faire un vite transition. Et puis après, ouais, être créatif en zone offensive et puis aussi faire les points.
Créatif et vous marquez des buts. Hein. Vous avez beau être un défenseur, quand vous pouvez marquer, vous le faites.
C'est exactement ça. C'est les choses qu'on aime le plus.
Janis Moser qui répondait à notre envoyé spécial en Finlande, Raphaël Chalvera. Cet après-midi dans le groupe A, l'Allemagne a largement dominé l'Italie 9-4. Dans l'autre poule, la Finlande n'a fait qu'une bouchée de la Grande-Bretagne 6-0. Deux autres rencontres sont prévues ce soir à 19h20. Le Kazakhstan affronte la Slovaquie et la Lettonie défie l'Autriche. Très belle soirée.